clé en main du mois de mai. Alain Romestan, bonjour. Le président américain vient d'annoncer, comme l'avait fait son prédécesseur, le président Trump, le retrait définitif des troupes américaines et de l'OTAN en Afghanistan. Le 30 avril, un attentat a fait 21 morts au lendemain du début du retrait des soldats US dans l'est de l'Afghanistan, dans la province de Logar. Le 15 avril, le secrétaire d'État américain était à Kaboul pour discuter de ce retrait des États-Unis. De nombreux observateurs estiment ce choix susceptible de profiter aux talibans. Cela fera, le prochain 11 septembre 2021, 20 ans que les attentats d'Al-Qaïda avaient justifié l'intervention américaine en Afghanistan. Les talibans contrôlent actuellement près de la moitié du territoire et la situation du gouvernement officiel de Kaboul est fragile et sa survie est remise en cause. Un préaccord de paix a été signé le 29 février 2020 à Doha par le gouvernement Trump et les insurgés afghans. Retrait des troupes américaines en contrepartie d'une interdiction par les talibans de tout groupe terroriste sur le sol afghan et négociation de paix avec le gouvernement de Kaboul. Clé en main vous propose aujourd'hui de faire le bilan de l'intervention des États-Unis, de l'OTAN, de ce que l'on peut appeler l'Occident en Afghanistan, aux prises avec les talibans. Nous aurons les réponses d'un chercheur émérite, homme de terrain en Afghanistan dès 1988, Gilles Doronsoro, qui nous fera part de son expertise prémonitoire dès 2017, il y a 4 ans. Gilles Doronsoro a travaillé dans un think tank américain, il a rencontré de nombreux politiques d'outre-Atlantique, jusqu'à Joe Biden, alors vice-président des États-Unis. J'ai eu l'opportunité de communiquer avec Gilles Doronsoro il y a peu, j'aimerais donc vous faire partager ses réflexions d'enseignant-chercheur. Gilles de Ronsoreau, professeur de sciences politiques à Paris 1, Panthéon-Sorbonne, dans son nouvel essai « Le gouvernement transnational de l'Afghanistan, une si prévisible défaite », propose une analyse critique des impasses des experts, de l'organisation militaire, de l'aide civile, un retour sur l'échec de 20 ans d'engagement civil et militaire et une explication de la défaite occidentale en Afghanistan. Plusieurs milliers de milliards de dollars pour l'essentiel consacrés à l'entretien des forces occidentales, des dizaines de milliers de morts, dont plusieurs milliers de la coalition occidentale, pour construire une démocratie de marché qui se traduit par un gouvernement transnational qui contourne les acteurs afghans au point d'interdire tout processus démocratique. Gilles de Ronsoreau, dès 2017, faisait le constat de l'échec occidental en Afghanistan. Écoutons-le d'abord sur un historique rapide de la question, la place de l'Occident, la place des talibans. Nous sommes en 2017.
Qu'est-ce qui a amené notre engagement et notre désengagement en Afghanistan, et surtout les conditions de ce désengagement, et montrer qu'on s'est nous-mêmes mis dans un piège stratégique dont il est extrêmement difficile de sortir, voire, de mon point de vue, impossible de sortir. Et dans ce deuxième temps, après avoir un peu montré la logique d'engagement occidental, je m'intéresserai plus précisément à la situation afghane actuelle, c'est-à-dire une façon de prouver que l'engagement occidental a été effectivement un échec. Et là, on détaillera à la fois la politique de Kaboul, du gouvernement de Kaboul, mais aussi de l'opposition. On essaiera de voir la dynamique qui s'est instaurée ces dernières années. Et on conclura en essayant de voir où est-ce qu'il y a des solutions, des sorties possibles dans cette crise qui est une crise particulièrement inextricable. Alors, il me semble que si on devait résumer les critiques nécessaires contre l'engagement occidental en Afghanistan, on pourrait dire qu'il y a deux critiques ou deux rubriques, si vous voulez, qui sont essentielles. La première critique, c'est le fait que l'ennemi n'a jamais été pris au sérieux. Hein, je pense que c'est quelque chose de central. L'ennemi a toujours été compris, conçu comme étant retardataire, légèrement idiot, moyenâgeux. Je pense que les pantalons trop courts des talibans ont fait beaucoup pour cette image d'un peu d'attardés ruraux. Et aussi, en dehors même de leur arriération supposée du point de vue des mœurs, les lapidations des femmes, etc., toute cette mise en évidence de choses vraies, par ailleurs, on a aussi l'idée, très rapidement, chez les Occidentaux, que les talibans sont incapables de s'adapter, incapables de progresser, incapables de maîtriser la technologie, incapables de maîtriser les médias, ce qui s'est révélé faux, et que donc on a affaire à un ennemi qui est structurellement faible. Et c'est pour ça que en 2003-2004, au moment où on est quelques-uns, pas beaucoup, mais on est quelques-uns à dire « Attention, les talibans reviennent », tous les rapports officiels de l'OTAN, du ministère de la Défense américain, etc., tous les acteurs institutionnels expliquent que les talibans ont définitivement disparu. Donc là, je suis en train de préparer un livre où j'ai effectivement repris toutes les citations de l'époque. Je ne vais pas toutes les garder parce que ça fait un peu livre à charge, mais c'est totalement fascinant de voir Rumsfeld à certains moments où le président Karzai expliquait que les talibans, désormais, sont moins de 1000 combattants et que donc ils ne vont pas tarder à s'effondrer, il suffit d'attendre un peu. Donc il y a cette confiance en soi qui est absolument remarquable. Hein. On a rarement vu, et je vois à partir de conversations avec des officiers occidentaux dans les années 2006-2007-2008, par exemple, on a un sentiment extraordinaire de supériorité. Hein. Et vous avez notamment aux États-Unis un sujet qu'on ne veut jamais aborder, qui est le sujet de l'échec soviétique, ou de l'échec britannique au XIXe siècle en Afghanistan. Donc, il y a une doxa, il y a une ligne commune acceptée qui est que l'intervention occidentale n'a rien à voir avec ce que les Soviétiques ont vécu et que donc nous, on va gagner parce que les Soviétiques étaient pas très bons, pas très aimés de la population et que nous, au contraire, on a toutes les cartes et que donc forcément, ça va bien se passer. Donc vous avez cette perception qui est redoublée par le fait que les talibans sont conçus comme un ennemi désorganisé. En fait, il ne s'agit pas véritablement d'un mouvement unifié, mais d'un certain nombre de petits groupes très peu coordonnés. Donc vous voyez, finalement, il n'y a pas véritablement de raison de s'en faire. Et puis le problème, c'est que la réalité se venge toujours un peu. On s'aperçoit, entre 2002, donc le début de la présence, enfin 2001, mais c'est surtout 2002, la présence américaine, et 2009, donc l'arrivée d'Obama au pouvoir, quand il prend véritablement le contrôle du gouvernement américain, on s'aperçoit qu'il y a quand même un problème général d'insécurité. Et que chaque année, les Américains envoient un peu plus d'hommes et ils envoient un peu plus de ressources. Et là, normalement, surtout quand on a une culture quand on est américain, donc on a une culture militaire propre aux États-Unis, on pense au Vietnam. C'est-à-dire que tous les ans, de manière incrémentale, on envoie plus de ressources. Et en même temps, jamais on se pose de questions sur la stratégie. Simplement, on est dans quelque chose qui est très instrumental. Oui, il y a des problèmes de sécurité, mais ce sont des problèmes locaux. Il ne s'agit pas d'une tendance générale, une tendance lourde, c'est les problèmes locaux, donc on va envoyer un peu plus d'hommes ici ou là, un peu plus d'argent, un peu plus de moyens, finalement, sans jamais créer un schéma stratégique adapté. Et en fait, ce qui va se passer avec Obama, donc Obama 2009, c'est une décision stratégique, et j'allais dire c'est la première vraie décision stratégique depuis 2001, qui est de faire ce qu'on appelait un « surge », c'est-à-dire une montée en puissance très forte des troupes occidentales, alors essentiellement américaines, mais aussi européennes, hein, les autres alliés, puisqu'on a au maximum du surge 150 000 soldats de l'OTAN qui sont présents en Afghanistan, ce qui est beaucoup. Pour mémoire, je vous rappelle que les Soviétiques, lors de leur invasion de l'Afghanistan, avaient plafonné dès le début leur nombre de troupes à 110 000. Donc vous voyez qu'on a deux, d'ailleurs, d'un point de vue culturel, c'est intéressant. Les Soviétiques avaient dit le piège, c'est effectivement de mettre des ressources de manière éternelle en Afghanistan et de perdre. Et donc on bloque à 100 000, 110 000, selon les périodes. Les Américains ne sont pas dans cette logique. Donc on est dans le surge. Alors le surge en soi, j'allais dire, c'est quelque chose qui est neutre, au sens où tout dépend comment on fait le surge. Et le surge va, en fait, être un échec pour trois raisons. Il y a trois raisons qui expliquent l'échec du surge. La première raison, c'est, de manière véritablement étonnante, disons, le fait que le facteur pakistanais n'est pas pris en compte dans le surge. Pour vous donner une idée de la nature du problème, l'insurrection taliban est basée au Pakistan, dans le pays voisin. Basée au Pakistan. Et la frontière afghano-pakistanaise, elle est incontrôlable. C'est-à-dire que c'est extrêmement compliqué. Déjà, on n'arrive pas à contrôler la frontière avec le Mexique, vous voyez. Mais alors la frontière avec le Pakistan, c'est juste pas possible. D'accord ? Donc si on veut véritablement combattre les talibans en Afghanistan, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut avoir l'accord du gouvernement pakistanais. Lui seul peut en fait faire pression sur le leadership taliban qui est au Pakistan. Or, depuis 2002, les Pakistanais, pour des raisons complexes qui ne nous intéressent pas ici, soutiennent les talibans, mais les soutiennent véritablement. C'est-à-dire que le leadership des talibans est véritablement installé à Quetta et, alors, pour une partie à Karachi, mais de toute façon au Pakistan. Donc vous voyez qu'on a là un problème qui paraît évident. Vous ne pouvez pas lancer des opérations en Afghanistan de cette ampleur sans vous assurer auparavant que le Pakistan est neutralisé politiquement et qu'il va collaborer à la politique américaine. Pour prendre une autre analogie historique, Qu'est-ce qui explique, alors c'est pas la seule cause, mais une des raisons majeures de l'échec américain en Vietnam, qu'est-ce que c'est? Le fait que, y a eu toujours un approvisionnement extérieur. Les Américains n'ont jamais réussi à couper la ligne chimique. Donc, si vous n'arrivez pas, et qu'est-ce qui explique, deuxième exemple, deuxième comparaison historique, le succès militaire des Français en Algérie, c'est le fait d'avoir bouclé les frontières. Après, c'était un désastre politique, mais ça ne nous intéresse pas ici. Mais en tout cas, l'enchal, c'était le bouclage des frontières algériennes, et ça a marché. À partir du moment où les frontières sont bouclées, ça devient très compliqué pour une insurrection de survivre. Et là, de manière extraordinaire, surprenante, les Américains ne s'assurent pas de l'appui pakistanais. Ou plus exactement, on a le double discours pakistanais habituel. Mais bien sûr, on va vous aider. Mais bien sûr, il faut combattre les terroristes. Mais en pratique, les services pakistanais, l'ASI, vont continuer à soutenir les talibans. Les armer, les entraîner, protéger le leadership taliban des frappes américaines, etc., etc. Qu'est-ce que ça a pour conséquence pratique? Ça a pour conséquence pratique que les États-Unis ont échoué à démanteler les structures des talibans. Alors comment est-ce qu'on démantèle les structures? Je crois qu'il faut ici oublier le côté heart and mind, toutes ces choses-là. C'est pas comme ça qu'on fait vraiment la guerre. On fait la guerre, dans ces circonstances, par des assassinats ciblés. Donc pendant des années, surtout entre 2009 et 2012, les Américains ont lancé des campagnes d'assassinats ciblés en Afghanistan contre tous les leaders talibans qu'ils pouvaient trouver. C'est énorme, hein, c'est des milliers de personnes. Ça fait penser un peu, si vous voulez, à ce qui s'est passé en Irak, juste quelques années avant. Et ça fait penser, bien sûr, à l'opération Phoenix pour le Vietnam. Donc c'est une stratégie systématique. Ça se passe la nuit. Ça se passe d'ailleurs en dehors des structures de l'OTAN, en général. Ça se passe vraiment... C'est une des opérations strictement américaines. Et vous avez des listes et des listes qui circulent. Et on trouve les gens, on les tue, etc., etc. Donc les talibans sont face à une pression majeure. C'est massif comme effort de guerre. Hein, d'accord ? C'est vraiment toutes les nuits, 10, 20, 30, 50 personnes sont éliminées. Mais en même temps, le noyau de l'organisation, c'est-à-dire les cadres supérieurs de l'organisation, c'était une entreprise privée, sont toujours au Pakistan. Et qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est que évidemment, les talibans renvoient des nouveaux cadres à partir du Pakistan. Donc qu'est-ce qui va se passer? Vous avez un mouvement qui va rajeunir dans ces cadres. Évidemment, l'espérance de vie n'est pas très élevée quand vous êtes un cadre taliban en Afghanistan vers 2010-11. Bon. Donc en fait, c'est un mouvement qui se rajeunit, mais qui aussi devient plus homogène. Pourquoi? Parce que fondamentalement, quand vous êtes très jeune, envoyé par le centre, donc là, c'est le leadership taliban, vous avez très peu de marge de manœuvre. Vous venez d'arriver, vous êtes jeune, vous êtes un bon combattant éventuellement, mais vous n'avez pas de surface sociale. C'est-à-dire aussi que ça va devenir beaucoup plus compliqué pour les services afghans, américains et autres de diviser le mouvement taliban. Parce qu'au lieu d'avoir des notabilités locales qui sont talibans, ben vous avez des jeunes combattants qui ne peuvent pas, en fait, se distancier, se dissocier du mouvement. Donc voyez que à la fois, on va à l'échec parce qu'on ne peut tuer que des cadres intermédiaires. Et c'est la grande différence avec l'Irak. Et en même temps, on va à l'échec parce qu'au lieu de briser le mouvement, on en fait quelque chose de plus homogène. On en fait, en fait, une véritable arme de guerre, ce que c'était pas tout à fait probablement vers 2002-2003.
Radio Grand Ciel.
Deuxième problème, c'est le lieu. Et ça, ça a probablement été ma plus grande surprise, parce que je suis les affaires afghanes depuis très longtemps, mais ma plus grande surprise, ça a été de décider que le surge allait être prioritairement dans le sud de l'Afghanistan, dans une province qui a pour caractéristique que bah, pas grand monde y va. Hein, c'est quelque chose de très reculé. Bon, les gens font de l'opium là-bas, mais bon. Et c'est l'Helmand, cette région. Ça s'appelle l'Helmand. Et c'est donc dans l'Helmand que les Américains vont mettre leurs meilleures troupes, les Marines, hein, avec l'idée de contrôler l'Helmand. Or, qu'est-ce que ça pose comme problème, ça ? Un, l'Helmand, c'est pas très loin du Pakistan. Ça veut dire qu'il va y avoir de la circulation de ce point de vue-là. Ça renvoie au premier problème mentionné. Deuxième problème avec l'Helmand, outre le fait d'ailleurs que les Britanniques avaient perdu des batailles pas très loin, donc historiquement ça fait un peu écho à des choses, mais ça c'est pas très grave. Deuxième problème, c'est que vous n'avez pas de structure étatique. L'Helmand, il n'y a pas d'État. Hein, c'est le cas, il n'y a pas de structure étatique. Bon, il y a un peu de la police, mais elle est très tribalisée, et grosso modo, c'est essentiellement une entreprise de corruption et de captation des ressources locales. Il n'y a pas vraiment de gouverneur de district, ça ne fonctionne pas. C'est-à-dire qu'au lieu de s'appuyer sur des structures afghanes, d'avoir un rôle plutôt indirect, on va investir nos ressources occidentales, dans l'endroit où, en fait, on va être directement face aux Afghans. C'est-à-dire qu'on va tout faire nous-mêmes. Et c'est là que certains petits génies invente l'expression « government in a box », le gouvernement dans une boîte. Qu'est-ce que c'est l'idée ? L'idée, c'est de tout amener là-bas. C'est-à-dire que vous êtes dans un district où il n'y a rien, ben vous allez tout envoyer de l'extérieur, vous allez remonter des écoles, des instits, un chef de la police, etc. Donc vous voyez qu'on se met dans une situation extrêmement difficile. Le troisième problème, c'est que vous mélangez, quand vous intervenez dans l'Helmand, deux problèmes. Un premier problème qui est celui d'insurrection, un deuxième problème qui est celui de l'opium. Contrairement à ce que les gens pensent, l'opium ne bénéficie pas majoritairement aux talibans. L'opium, ça bénéficie à beaucoup de gens, et notamment le gouvernement en place. Il y a des réseaux, alors c'est pas forcément le gouvernement en tant que tel, mais c'est des réseaux proches du gouvernement. On a quelques cas dont on est conscient, grâce à Wikileaks, hein, de Karzai téléphonant dans quelques commissariats éloignés du sud de l'Afghanistan pour faire libérer des gens qui avaient été pris avec 10 ou 20 kilos d'opium dans leur voiture. Hein. Bon, ces réseaux-là fonctionnent. Or, qu'est-ce qu'on fait ? En fait, en intervenant, on met en danger ce qui est l'économie locale, en dehors de toute question idéologique. On met en danger l'économie locale. Et donc on va avoir une réaction qui n'est pas qu'une réaction, j'allais dire, idéologique, mais aussi simplement les paysans de l'Helmand vont défendre, à un certain point, leur gagne-pain. Il faut faire de l'argent, vivre, faire vivre sa famille, etc. Donc pour toutes ces raisons, l'échec dans l'Helmand était quelque chose de prévisible. Et tout ça pour dire que rien n'est totalement prédéterminé historiquement. Si, en fait, McChrystal et son équipe... Bon, c'est le général McChrystal qui était en charge de ça à l'époque. Si le général McChrystal avait un tout petit peu mieux pensé la situation et avait investi ses troupes autour de Kaboul, qui était la chose à faire, on aurait probablement des résultats totalement différents. D'accord ? Donc on a sous-estimé l'importance du Pakistan. On a ensuite totalement... évacuer la question du lieu. Enfin, en tout cas, on a fait des mauvais choix sur le lieu d'intervention. Et au final, qu'est-ce qu'on a ? On a un surge qui ne fonctionne pas. Et troisième erreur, Obama décide qu'il faut donner une date ferme de retrait du surge. C'est-à-dire que, grosso modo, c'est comme si vous jouez aux cartes, vous montrez toute votre carte à l'adversaire. À partir du moment où Obama explique que, de toute façon, quoi qu'il arrive, et indépendamment de l'évolution de la situation en Afghanistan, la majeure partie des troupes sera évacué en 2014, les talibans n'ont plus qu'une chose à faire, c'est à attendre. Et c'est exactement ce qu'ils vont faire. Hein. Vous voyez que le surge, il est mal pensé dans son fonctionnement initial, mais la sortie est quelque part encore plus catastrophique. C'est-à-dire que quand vous décidez de la date de retrait, quand vous avertissez votre adversaire, de toute façon, votre effort, il a une limite. Qu'est-ce que vous avez comme possibilité d'enclencher une négociation? Vous êtes dans une position de faiblesse totale. C'est un peu comme les Anglais avec le Brexit, si vous voulez. À partir du moment où il y a 2 ans pour négocier, au bout de 2 ans, s'il n'y a pas de négociation, il n'y a pas d'accord. Qui c'est qui mène la barque? Évidemment, c'est plutôt Bruxelles. C'est pas tellement Londres. La même chose pour les talibans. Si vous commencez à négocier avec les talibans, ce que tout le monde fait de manière un peu informelle, les talibans ne sont pas extrêmement pressés parce qu'ils savent que l'année prochaine, il y aura un peu moins de troupes américaines. Donc ils peuvent probablement faire des gains. Donc de toute façon, pourquoi pas, ils peuvent avancer. Et voilà la logique qui a conduit, qui a accéléré la détérioration de la situation. Donc vous voyez comment on s'est créé un piège dont il est extrêmement difficile de sortir aujourd'hui. Il reste aujourd'hui à peu près 10 000 soldats américains. Probablement, on va être obligé d'en envoyer plus dans le futur. Pourquoi ? Parce que la situation se dégrade. C'est ce que je vais montrer maintenant. Et en même temps, on ne peut pas, probablement en tout cas, mais avec Trump, j'hésite à faire des prévisions, mais on ne peut pas imaginer un retour à des forces massives de l'OTAN en Afghanistan. Difficile de penser 100 000, 200 000 personnes. Les Européens n'iront pas. Donc il n'y aurait que les Américains, 100 000 soldats américains de retour en Afghanistan, j'y crois très peu. Donc vous voyez qu'on s'est mis dans une espèce de situation ingérable où fondamentalement il n'y a plus de projet stratégique occidental en Afghanistan, il n'y a plus non plus de projet social, on ne cherche pas à reconstruire l'État afghan, on ne cherche pas à libérer les femmes, on ne cherche pas rien à faire de particulier, sauf survivre une année de plus. Je commence à dire que les présidents américains, désormais, ils n'ont qu'une idée par rapport à l'Afghanistan, c'est de filer le bug à celui qui va venir, au prochain président. C'est ce qu'a fait Obama, c'est Trump, et Trump, bon, je ne sais pas s'il va durer 4 ans ou 8 ans, ou peut-être moins, mais essentiellement, il ne va pas régler la crise afghane. Le mieux qu'il puisse faire, c'est donner la crise afghane à quelqu'un. Donc vous voyez qu'à la fois, il n'y a plus de projet, mais... Encore, on pourrait penser 10 000 soldats, on peut les laisser éternellement. Oui, mais ça ne suffira pas. Parce que la dégradation est telle que chaque année, il faudra un peu plus de ressources. Et que donc, fondamentalement, on est coincé. J'explique pas ici que l'Afghanistan, le régime afghan va s'effondrer dans les 6 mois. C'est pas ça. Je dis que plus le temps passe, plus la situation devient difficile. Et à un moment donné, quelque chose va devoir céder. Ou il y aura une transformation régionale massive... où le régime de Kaboul va s'effondrer, où il va se passer quelque chose. Mais en tout cas, la situation n'est pas stable et elle ne va pas dans le bon sens. Alors pour appuyer ces propos, si vous voulez mettre un peu plus de chair à la démonstration, ce que je vais faire maintenant, c'est expliquer en quelques mots pourquoi la situation afghane est pratiquement condamné à se détériorer sur les 2 ou 3 prochaines années. Et je vais commencer par le régime de Kaboul, le gouvernement légal de l'Afghanistan. Ensuite, j'irai vers les talibans. Et ensuite, je terminerai avec la configuration régionale qui, sans être... est relativement complexe et probablement en évolution. Anymore.
RGC.
La première chose qui est claire, c'est que le gouvernement de Kaboul est dans une logique de déconstruction des institutions. Vous vous souvenez peut-être, vous êtes un peu jeune pour vous souvenir, mais en tout cas, vous avez lu qu'en 2001, 2002, les Occidentaux, les Américains notamment, voulaient reconstruire un État afghan. Les Américains étaient un peu ambigus, puis après, ils se sont ralliés à l'idée qu'il fallait reconstruire un État afghan. Et la reconstruction de l'État afghan, c'était des élections, un Parlement, un président de la République élu au suffrage universel, avec deux tours. C'était véritablement une constitution, une Cour suprême. C'était des institutions fonctionnelles. D'accord ? Et pendant quelques années, grâce au soutien occidental, on peut penser que ça se passait un peu comme ça. On savait bien que c'était plus compliqué dans la pratique, mais il y avait grosso modo une façade institutionnelle. Or, depuis le retrait américain, et surtout depuis l'élection d'Ashraf Rani comme président, enfin une élection entre guillemets, en 14, on a en fait une situation qui ne correspond plus à un schéma institutionnel légal, classique, acceptable. Je vais vous expliquer pourquoi. Alors le système commence véritablement à craquer avec les élections présidentielles en Afghanistan. Donc Karzai, le premier président, donc, a fait deux mandats, deux élections, avec probablement une fraude assez considérable, surtout pour la deuxième. Mais bon, grosso modo, ça a été accepté. Et donc il fait deux mandats de 5 ans classiques. Et élection présidentielle. Et là, le système coince. Le système coince, c'est-à-dire que au deuxième tour, les accusations de fraude sont telles qu'il y a une paralysie de la commission électorale chargée d'enquêter sur les fraudes. Quand je parle de paralysie, de temps en temps aussi, ça a été à la limite de la bagarre physique. Et finalement, crise de régime, crise radicale de régime, septembre 14, on décide, parce que la situation risque de devenir une situation de guerre civile interne entre les partis, on décide, sous le patronage des Américains, un accord de gouvernement sans proclamation des résultats électoraux. Alors, les résultats électoraux ont été publiés récemment, dans des conditions un peu bizarres, mais ce que je veux dire, c'est qu'officiellement, vous voyez, je ne sais pas si vous avez lu Astérix en Corse, à un moment donné, tout le monde vote, donc il y a des urnes, et puis après, on jette les urnes à la mer. Hein, c'est un peu passé. Et après, bon, on négocie. C'est un peu ça, l'Afghanistan. Il y a un vote. Mais personne ne connaît le résultat. Les fraudes sont trop considérables pour que ce soit légitime. Et donc on fait un accord où Ashraf Rani devient président et Abdullah Abdullah, son concurrent donc au second tour, devient un exécutif parallèle dont les relations de hiérarchie avec le président ne sont pas très très claires. Et il y a tout un accord qui a été négocié à l'ambassade américaine et qui, grosso modo, organise une coexistence entre deux pouvoirs exécutifs. Donc qu'est-ce que ça nous apprend, cette crise ? Ça nous apprend deux choses. Un, premièrement, il n'y a pas de consensus des élites sur la règle du jeu. Or ça, c'est la base de tout système politique. Si vous n'avez pas de consensus, vous n'avez pas d'alternance possible. Et les gens qui tiennent l'État, et c'est ce que ça révèle, ne peuvent pas lâcher l'État. C'est-à-dire qu'il y a des clans, des groupes, des partis politiques ou des réseaux politiques qui tiennent les ressources étatiques, qui tiennent un ministère, ils tiennent une province, etc. Et ces gens-là ne veulent pas qu'une alternance politique mette en question leur contrôle local. C'est essentiellement de l'argent, hein. c'est pas très métaphysique comme truc, c'est de l'argent, c'est la possibilité d'utiliser les positions administratives pour placer leurs copains, c'est toutes ces choses-là. Donc on a un système qui est bloqué parce que personne accepte de perdre, c'est trop dangereux de perdre. Et si vous perdez, vous risquez gros. Parce que quand vous étiez au pouvoir, vous avez fait des choses pas propres, probablement. Donc si c'est vos ennemis qui prennent le ministère que vous contrôliez, qu'est-ce qui se passe? Donc il n'y a pas d'alternance. Ça reflète en fait une structure particulière du système politique, l'accaparement de l'État par des groupes privés. Et puis la deuxième chose que ça montre, c'est qu'il n'y aura plus jamais d'élection en Afghanistan. Enfin, plus jamais, c'est-à-dire là, il n'y en a pas. Ce n'est pas possible. À partir du moment où, un, il y a eu cette crise majeure pour les élections présidentielles, qui aujourd'hui va faire confiance aux élections pour sélectionner des leaders politiques? C'est juste impensable aujourd'hui. Donc les élections sont décrédibilisées de manière... Alors définitive, vous voyez ce que je veux dire, définitive pour les 5 ans qui viennent, quoi. Mais en tout cas, là, je pense que véritablement, on a changé de système. Alors ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que le Parlement devait être élu, un nouveau Parlement devait être élu, normalement, à la suite de son terme, et qu'il ne l'a pas été pour différentes raisons, et que donc l'Afghanistan, non seulement a un pouvoir exécutif dont la légitimité est tout à fait contestable, mais de plus... il n'y a pas de Parlement. C'est-à-dire que le Parlement actuel, il peut siéger, mais en fait, sa date de péremption, si vous voulez le dire comme ça, ça fait déjà un an et demi, presque deux ans que c'est passé. Donc vous voyez qu'on change de système. Il n'y a plus d'élections, il n'y a plus vraiment de Parlement. Le pouvoir exécutif, c'est très très, très, très contestable comme légitimité. Et c'en est de même pour l'ensemble des institutions afghanes. Donc il y a une tendance à, j'allais dire, la désinstitutionnalisation du régime. Les institutions sont de moins en moins perçues comme véritablement objectives, indépendantes, etc. Et leur crédibilité devient de plus en plus faible. Alors... pour vous donner... C'est juste une parenthèse. Mais pour vous donner un exemple concret, vous n'avez pas de liste électorale réelle en Afghanistan. Vous avez une liste nationale pour l'ensemble de l'Afghanistan. Les gens qui sont morts, partis, etc., ne sont pas éliminés de la liste. Ce qui veut dire qu'avec votre carte d'électeur, vous pouvez voter n'importe où dans le pays. Vous voyez les possibilités de fraude. Juste pour vous donner un exemple. L'ONU était chargée de mettre en place un système électoral à peu près fonctionnel. Pour des raisons qui m'échappent pas d'ailleurs dans ce cas-là, ça n'a pas été fait. Et donc on se retrouve avec un pays où il n'y a pas vraiment de carte d'identité, fonctionnelle, pas de liste électorale. Et puis, ça j'y reviendrai tout à l'heure, l'insurrection qui contrôle une partie significative du pays et qui pourrait donc bloquer les élections au moins... Moi, je dirais dans un quart du pays facilement, voire plus. Donc on a ce problème-là. On a un deuxième problème qui est... Alors j'ai pas mentionné le fait que le vice-président était actuellement accusé d'avoir violé un de ses concurrents politiques. Bon, c'est encore autre chose. Donc aujourd'hui, on est dans une... Non, c'est vrai. Dostum, donc. Et aujourd'hui, vous avez... Et c'est très symptomatique, finalement. C'est un bon exemple. Dans un des quartiers les plus riches de Kaboul... Sherpool, donc vous avez la maison de Dostum qui est encerclée par des forces de police qui ne veulent pas intervenir parce que Dostum est entouré de quelques centaines de miliciens armés jusqu'aux dents et qu'on ne veut pas mettre le centre de Kaboul à feu et à sang. Mais ça vous donne une idée de la violence et de la désinstitutionnalisation de tout le système. Un deuxième élément, c'est l'impossibilité croissante, et c'est le croissant qui est important, du gouvernement de Kaboul à assurer ses propres ressources. Alors les projections de la Banque mondiale, qui ont été historiquement parfois un peu optimistes, mais bon, c'est grosso modo que le taux de croissance afghan sera de 1,9% en 2018. Finalement, à peu près comme beaucoup de pays européens, un peu plus. Le problème, c'est que vous avez une explosion démographique en Afghanistan. Donc on parle ici d'un appauvrissement de la population afghane. Et ça veut dire très concrètement que la crise économique, qui est une dépression économique, avec un taux de chômage chez les jeunes, probablement de 50% facilement. Cette crise économique ne peut pas être surmontée. Ça veut dire que les structures sont profondément affaiblies. Ça veut dire aussi que les pays occidentaux vont être obligés de financer plus, de donner plus d'argent simplement pour que le système survive. La survie du système, c'est payer les fonctionnaires, c'est entretenir un petit peu les infrastructures. Mais là, les infrastructures se dégradent assez rapidement, notamment les routes, à la fois à cause de malfaçons, de l'absence de contrôle de sécurité sur ces routes, etc., etc. Donc vous avez là un problème qui est encore aggravé par l'afflux de 600 000 réfugiés venus du Pakistan depuis novembre. Alors ça, c'est véritablement un effet de la politique pakistanaise. Les Pakistanais chercheraient à déstabiliser l'Afghanistan et s'y prendraient pas autrement. Les Iraniens le font un peu aussi, d'ailleurs. Novembre, c'est le début de l'hiver en Afghanistan. Il commence vraiment à faire froid. Et vous avez 600 000 personnes qui arrivent et pas de structure. Il y a pas de... Voilà. Il y a quelques ONG, quelques organisations internationales qui agissent, mais n'ont pas assez d'argent. Donc vous avez des populations paupérisées qui sont à la périphérie des villes. Kaboul est déjà une ville énorme, avec probablement 4 ou 5 millions d'habitants. Des centaines de milliers de personnes arrivent. Il n'y a pas de, y a rien pour les accueillir. Il n'y a pas forcément d'eau, d'ailleurs. Enfin, selon les endroits, il n'y a pas forcément d'eau. Et on est devant une crise supplémentaire.
Grand ciel.
Maintenant, passons à la partie sécuritaire, qui est la condition centrale pour qu'il y ait éventuellement un jour une amélioration. Et là, on se retrouve avec la combinaison de plusieurs dynamiques dont aucune n'est véritablement favorable au gouvernement de Kaboul. La première dynamique, c'est la diminution des effectifs réels des institutions de sécurité, c'est-à-dire armée, police, services secrets, etc. Sur le papier, les effectifs sont censés être de 350 000, voire plus. En pratique, les effectifs réels sont probablement, bon ça il y a des rapports pas trop mal faits là-dessus, 140 000 pour l'armée et 125 000 pour la police. Vous me direz, c'est pas si mal, mais on parle ici d'un pays qui est un peu plus grand que la France, qui a plus de 30 millions d'habitants, et vous voyez qu'en fait, des effectifs de police de 120 ou 130 000 hommes, c'est rien, en fait. C'est très très peu de choses. Hein. Donc ces effectifs sont relativement limités. Deuxième problème majeur, c'est le turnover. Hein. Dans l'armée, on a un turnover de 30%. Vous imaginez ce que ça veut dire, 30%. Ça veut dire que tous les ans, il faut renouveler 30% des effectifs. Alors le turnover est très différent selon les endroits, selon les corps d'armée, etc. Hein, les corps très professionnalisés ont un turnover très faible. Bon, ils sont mieux payés, mieux entraînés, il y a un esprit de corps. Par contre, le soldat de base qu'on envoie se battre dans des endroits où il y a plein de talibans, avec une logistique qui ne fonctionne pas, parce que tout le monde a piqué dans la caisse, donc il n'y a pas les pièces pour réparer les camions, et que bah, souvent, les armes, il n'y a pas de munitions parce qu'elles ont été vendues aux talibans, etc. Bon, c'est assez raisonnable de déserter. Donc les gens désertent, 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 désertent. Et 30%, c'est, d'après tous les spécialistes du militaire, un taux qui n'est pas soutenable. On ne peut pas faire tourner une armée avec un turnover de 30% en situation de guerre, j'entends. Donc là, on a un problème qui a été souligné par tous les rapports externes. Il y a une institution américaine qui s'appelle SIGAR qui produit ce type de rapport et qui a accès aux données de l'armée, en tout cas une grande partie des données de l'armée américaine. C'est une institution qui dépend du Congrès américain. Ce sont donc des marshals. Hein, ils ont la plaque, etc. Ils peuvent vous arrêter. Éventuellement, et ils font des enquêtes qui sont des enquêtes sur la corruption, l'utilisation des fonds, etc. Mais ça donne énormément d'informations sur l'état réel du pays. Autre problème qu'on a, c'est l'utilisation de ces forces. L'utilisation de ces forces, elle est résumable, si vous voulez, par trop d'activités, une déspécialisation des troupes qui est due à la pression de l'insurrection. Alors qu'est-ce que je veux dire plus concrètement? Déspécialisation, ça veut simplement dire que la police ne fait plus un travail de police. La police fait un travail de milice, de groupe armé, si vous voulez. Pourquoi? Parce que quand vous êtes policier en Afghanistan, vous avez la pression de l'insurrection est très très forte. Donc qu'est-ce qui se passe? Ben, vous êtes armé comme des groupes militaires. Vous n'allez pas du tout vous occuper des vols à l'étalage, des vols ou même des assassinats. Tout ça, ce n'est pas très important. Votre problème, c'est d'arriver à survivre dans votre commissariat et à peu près à contrôler votre espace. Donc la police ne fonctionne plus comme police. Il n'y a plus de rapport spécifique que vous avez avec la population, normalement, quand la police fonctionne bien, etc. Tout ça, vous pouvez oublier. La police est une unité militaire parmi d'autres. Il y a quelques exceptions, mais finalement, assez peu. Le deuxième exemple de déspécialisation, c'est que vous avez en Afghanistan des forces spéciales qui fonctionnent bien. C'est des corps limités, ça fait quelques milliers d'hommes, c'est des gens qui vont sur les opérations, sur les coins chauds, et en général, ils gagnent. C'est des bonnes troupes. Le problème, c'est que la situation sécuritaire est tellement mauvaise globalement que ces gens-là sont envoyés pour approvisionner des postes isolés pour la logistique. Ils sont utilisés pour faire un peu n'importe quoi, parce qu'on sait qu'eux, ils sont à peu près fiables. Ce qui veut dire qu'ils perdent quelque part leur spécialité de force spéciale. Ils deviennent un peu des troupes à tout faire, ce qui n'est pas très bon, ni pour leur morale, parce qu'ils se plaignent assez d'être envoyés sur quand même tous les coups pourris. Et puis c'est pas très bon, parce qu'ils sont évidemment pas utilisés là où ils sont le plus efficaces. Donc on a, pour résumer, une armée qui est dans une situation extrêmement, extrêmement difficile et qui est de plus en plus dépendante des États-Unis. les drones, les bombardements, parce que je parlais tout à l'heure des 10 000 soldats américains, surtout des forces spéciales, qui sont actifs en Afghanistan. Mais il faut d'abord parler du soutien aérien. Le soutien aérien est décisif. Pourquoi ? Parce qu'il empêche la concentration des troupes talibans. Et empêcher la concentration, c'est empêcher la chute des agglomérations un peu importantes. Enfin, en principe, en tout cas, des agglomérations qui nécessitent de réunir quelques milliers de talibans pour prendre une ville. Ça, aujourd'hui, les talibans, s'ils le font, ils sont soumis à une pression militaire assez forte. Donc, on se retrouve avec cette dépendance par rapport aux forces américaines, aériennes, mais aussi terrestres. Et on voit que les talibans ont quand même pris une des grandes villes du nord de l'Afghanistan, la ville de Kunduz, plus d'un million d'habitants, et qu'il a fallu les forces spéciales américaines pour reprendre la ville. C'est-à-dire que sans les forces spéciales, la ville restait aux mains des talibans, ce qui veut dire que probablement c'est toute l'architecture sécuritaire du Nord qui a explosé. Même chose l'été dernier, les talibans ont été à deux doigts de prendre la grande ville, une des grandes villes du Sud, dans l'Helmand, Lashkarga, et c'est véritablement l'action des forces spéciales américaines qui a permis d'éviter la chute de la ville. Il y a quelque chose d'ailleurs d'assez presque amusant. C'est sur les règles d'intervention des forces spéciales. Normalement, les forces spéciales américaines en Afghanistan ne sont pas là pour se battre, mais pour conseiller les forces afghanes. Ceci dit, il est prévu qu'ils puissent se défendre. Donc, qu'est-ce qui se passe ? On les met à des endroits où il y a des combats, et donc s'il y a des combats, ils sont obligés de se défendre. Et vous voyez ce que je veux dire, ça marche très très bien. Mais légalement, ce n'est pas des opérations militaires agressives. Il suffit simplement, alors là vous contournez l'esprit de la loi, il suffit simplement de se mettre dans une situation impossible où ça tire partout, et tout devient autodéfense. Vous voyez comment on arrive à contourner un peu les... Voilà. Alors, quand je parle de crise sécuritaire, est-ce qu'on peut le mesurer ? Oui, on peut en partie le mesurer. Il y a 400 districts en Afghanistan, et on les a pris un par un, hein. Avec un collègue avec qui je travaille, Adam Bachko, on les a pris un par un, et puis on a dit, bon, c'est quoi là ? On s'est renseigné, il y en a qu'on connaissait bien, d'autres pas du tout. Et on a fait le calcul, il y a à peu près 150 districts sur 400 où les talibans contrôlent tout le district, ou tout le district sauf le chef-lieu. Et le chef-lieu, c'est parfois 300 mètres hein, autour du chef-lieu, et c'est tout. 150. Alors, ça ne veut pas dire que c'est proportionnel à la population, etc., puisque effectivement, c'est des districts plus ruraux, plus éloignés, de manière assez logique, et que donc, en termes de population, on est probablement avec un gouvernement afghan qui contrôle plus ou moins, parce qu'il s'agit d'un contrôle souvent en pointillé, encore nettement plus de la moitié de la population. Je dirais bien les deux tiers facilement. Mais vous voyez que le danger de l'expansion des talibans, qu'est-ce que c'est ? C'est l'étouffement progressif des villes qui restent sous le contrôle du gouvernement de Kaboul. Et c'est ce qu'on voit ces dernières années. Les routes deviennent de plus en plus difficiles à sécuriser, et donc difficiles pour les employés gouvernementaux d'aller d'une ville à l'autre par la route. Et pour les étrangers, là, c'est carrément impossible maintenant. Difficulté éventuellement de commercer, encore que les talibans soient plutôt souples sur ces questions. Et donc on est dans une dynamique d'étouffement des agglomérations. Alors cette dynamique, elle peut se confirmer ou pas, on verra dans les prochaines années. Mais en tout cas, là, on a un problème majeur, parce que là, ce n'est pas des forces spéciales américaines qui vont pouvoir réouvrir les routes en Afghanistan. Là, c'est un problème beaucoup plus structurel.
Eh bien, merci à notre interlocuteur patenté, merci Gilles de Ronsoreau, ainsi qu'à l'Université libre de Bruxelles. Merci aussi pour les respirations musicales du groupe Electrolane. C'était Clé en main, qui, je l'espère, vous aura permis de mieux appréhender une forte problématique de géopolitique. À bientôt sur Radio Grand Ciel pour une prochaine émission. Radio Grand Ciel, la radio qui rapproche les hommes.